Maintenant qu'Ottawa et les provinces se sont entendues pour renouveler le cadre stratégique agricole, restent les préparatifs de la politique canadienne de l'alimentation et ceux de la politique bioalimentaire du Québec. Comment le président de l'UPA voit-il ces deux politiques en préparation?
D'aborder la question de l'agriculture par l'alimentation, c'est pas une mauvaise chose en soi. En autant que le soutien à l'agriculteur et la politique agricole nécessaire à bien soutenir nos agriculteurs ne soit pas un peu mis sur la touche sous une politique alimentaire ou en faveur d'une politique alimentaire. C'est ça un peu l'inquiétude des producteurs agricoles. Le Québec, on a 28 000 entreprises agricoles. On fait face à une compétition de plus en plus grande. On vient de parler des fromages qui seront importés. Les marchés sont ouverts de plus en plus. On a quand même un secteur de la transformation qui est intéressant au Québec, mais eux aussi font face à de plus en plus de compétition. La pression exercée par les distributeurs alimentaires est de plus en plus grande. Alors, c'est sûr qu'il faut être conscient qu'on ne peut pas se priver d'une bonne politique agricole parce qu'on se donnerait une forme de politique alimentaire. Comme je disais récemment, si les gens veulent manger santé, si les gens veulent faire attention à leur santé par l'alimentation, tout existe, tout est sur les tablettes déjà. Les produits allégés, les étiquetages permettent aux gens de choisir, les fruits et légumes à l'année, les produits biologiques, produits naturels. Les gens qui veulent manger seulement végétarien peuvent le faire. Vraiment, si on veut manger santé, tout existe déjà. Alors, on ne changera pas les habitudes des gens uniquement parce qu'on a une politique alimentaire. Il va falloir aller plus loin que ça, si on veut. Donc, mais moi, notre crainte, nous, c'est qu'on mette un peu sur la touche une bonne politique agricole parce qu'on se sera donné une politique alimentaire.
Si on regarde la discussion du côté d'Ottawa versus ce que l'on prépare du côté de Québec, il apparaît, je pense, qu'on ne pourra pas, du côté d'Ottawa, modifier le partage des juridictions historiques, constitutionnelles entre le Québec et Ottawa. Québec demeurera toujours dans l'esprit du monde agricole, le gouvernement à qui on réfère en premier lorsqu'il est question d'agriculture.
En fait, le gouvernement fédéral est responsable de tout ce qui s'appelle commerce interprovincial et commerce international. Donc, la politique agricole fédérale vise à soutenir l'agriculture pour qu'elle puisse se développer à l'étranger ou entre les provinces. Puis aussi à équilibrer, à quelque part, entre les provinces, le soutien aux agriculteurs. Mais la politique fédérale est quand même importante parce qu'elle trace les grands pans des interventions que les provinces pourront offrir à leurs producteurs. Si le fédéral décide d'y aller davantage au niveau de l'environnement, puis que ces sommes sont dirigées vers l'agro-environnement, ben là, c'est de cette façon-là que les provinces peuvent aller ou obtenir du soutien fédéral. Alors, ça oriente les politiques provinciales. Et dans la dernière entente qui a été signée il y a une semaine entre les provinces et le fédéral, ce que M. Lessard nous disait suite à cette conférence-là, c'est qu'il a obtenu la flexibilité qu'il souhaitait dans la négociation bilatérale qui va survenir maintenant d'ici avril 2018, qui va avoir lieu d'ici avril 2018. Mais il reste que le fédéral a un mot important à dire dans les politiques provinciales agricoles dû au cadre stratégique agricole fédéral.
Sans vouloir compliquer les choses, effectivement, on vient de renouveler le cadre stratégique agricole canadien, ce qu'on appelait ces dernières années « Cultivons l'avenir ». Mais ça ne change pas les intentions d'Ottawa d'avoir une politique, un grand chapeau qui serait une politique d'alimentation canadienne.
Dans la politique de l'alimentation, on veut avoir des aliments à prix abordable. On veut avoir une agriculture respectueuse de l'environnement. On veut avoir l'accessibilité aux aliments partout au Canada. On adhère à 100% à ces volontés-là, à ces vœux-là. Alors ça, c'est nous, on le demande depuis longtemps. Maintenant, lorsqu'on regarde le budget qui est disponible pour les 5 prochaines années dans le cadre stratégique agricole, on a gelé les budgets actuels. C'est donc dire que depuis 2013, ça fait 5 ans là, qu'on est sur le budget de 2013, et de 2018 à 2023, on nous annonce le même budget. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ambition là, de la part du gouvernement fédéral, d'ambition mesurable par rapport à la politique alimentaire dont il parle. Nous, on le dit depuis longtemps, là. En 2013, là, il y a eu des coupures de 250 millions de dollars par année dans les programmes de gestion des risques en agriculture au Canada. Ça, c'est Agri-Stabilité et Agri-Investissement. Pendant la même période, les Américains ont maintenu leur programme agricole et ont même bonifié certains volets de leur programme agricole. Aujourd'hui, le Canada dépense moins par dollar de revenus agricoles que les États-Unis. Donc, c'est sûr qu'à terme, le Canada, les producteurs canadiens vont être moins compétitifs pour renouveler leur équipement, pour réinvestir sur leur entreprise, pour développer les marchés. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une politique alimentaire, mais si la politique alimentaire camoufle le fait qu'on ne réinvestit pas dans une politique agricole, bien, le Canada sera perdant au bout de la ligne, là.
Restons du côté fédéral, encore pour un sujet, les travailleurs migrants. Ben, je dis fédéral, il y a quand même des implications québécoises dans tout ça, mais le programme a été assoupli cette année. On n'avait pas du tout aimé les resserrements du gouvernement conservateur. Maintenant, ça a été réassoupli. Mais il y a encore certains problèmes, mais c'est pas la majorité des gens qui viennent travailler ici et c'est pas la majorité des entreprises qui ont des problèmes à ce sujet-là.
Non, mais il y a eu ça a fait des nouvelles récemment, là. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des travailleurs qui se sont fait un peu avoir par une firme qui leur offre, à travers le programme des travailleurs étrangers temporaires, une possibilité d'immigrer au Canada, là, alors que le programme n'a pas été destiné pour faciliter l'immigration. Il est vraiment destiné à faciliter temporairement des travailleurs étrangers à venir au Canada. Le programme fonctionne assez bien. Ici, ce qu'on déplore au Québec, c'est la difficulté qu'on a avec le traitement des travailleurs guatémaltèques, surtout. Il y a une entente entre le Canada et le Mexique et certains pays de la Jamaïque. Et à travers cette entente-là, qui est entre deux pays, c'est plus facile. Donc, si je demande à un travailleur mexicain de venir, c'est plus facile que si on demande à un travailleur guatémaltèque avec lequel le Guatemala, on n'a pas d'entente entre le Canada et le Guatemala. C'est une négociation entre FERM, qui est l'organisation qui s'occupe de ça au Québec, et les représentants du gouvernement guatémaltèque. Alors, c'est ça qu'on voudrait corriger, surtout pour les producteurs québécois. Mais le programme fonctionne bien, mais les lourdeurs administratives sont énormes pour ce programme-là. Et comme il y a une rareté de main-d'œuvre, il y a de plus en plus de petites entreprises qui doivent utiliser ce programme-là, mais ça devient extrêmement difficile.
Deux sujets rapidement en terminant. Les pesticides.
Ouais.
Québec vient d'annoncer des resserrements dans l'utilisation de différents produits utilisés comme pesticides agricoles. Et ça crée beaucoup de mécontentement, en particulier chez les producteurs de grains. Ça, c'est un dossier sur lequel vous allez travailler assez fort?
Ouais, on avait déjà rencontré M. Hurtel et son équipe à quelques reprises. Et nous, ce qu'on voulait, puis ce qu'on recommandait à M. Hurtel, c'était plutôt que d'y aller de façon coercitive par des mesures administratives. Il fallait y aller de façon à former les producteurs pour que ceux-ci changent leurs pratiques ou soient plus conscients des dangers d'utiliser ces produits-là. Et à terme, on va avoir des changements qui vont être durables dans la façon d'utiliser ces produits-là. Mais l'approche qui a été choisie d'utiliser les agronomes pour surveiller la façon dont les producteurs utilisent ces produits-là. Encore une fois, le Québec va être la seule province où on fait ça. Et ça crée, à un moment donné, c'est la difficulté pour les producteurs. Elle n'est pas par rapport aux herbicides, finalement. Elle est par rapport à l'administration du programme. Les gens sont plus soucieux comment je fais pour réduire l'administration du programme que comment je fais pour mieux utiliser le pesticide. Alors, on détourne, pour le producteur, ce qui est le fardeau, c'est pas l'herbicide, c'est l'administration. Alors, il ne changera pas ses pratiques nécessairement par rapport à l'herbicide. Il va tenter d'adapter ses pratiques par rapport à l'administration. Et nous, on disait, c'est pas l'approche. L'approche, c'est peut-être plus long, mais former les producteurs sur l'utilisation, former les producteurs sur l'entretien des appareils qui servent à la pulvérisation, sur les meilleurs temps pour utiliser tel ou tel ou tel produit. Mais si on forme les producteurs, ça va demeurer un acquis. Ça devient un acquis pour les producteurs, puis eux vont graduellement évoluer dans leur pratique. Alors, moi, je trouve qu'on règle vite le problème en incombant encore plus de lourdeur administrative aux entreprises, mais on ne règle pas le problème de fond.
Pour ce qui est du bio, Bon, le bio continue de prendre de l'expansion, la production biologique, dans tous les domaines d'ailleurs. Il y a des gens qui, d'une part, trouvent que les contrôles sont un peu coûteux. Il y a des gens du côté des consommateurs qui disent que ces contrôles-là ne sont peut-être pas suffisants. Comment vous voyez ça, vous, comme président de l'UPA?
Bien, aussi comme président de la table de développement de la production biologique. Nous, à cette table-là, pour les producteurs puis les organisations qui sont présentes à cette table-là, c'est nécessaire de maintenir un niveau de certification tel qu'il existe aujourd'hui. Oui, c'est exigeant, mais ça assure aux consommateurs que lorsque vous voyez produits bio ou aliments bio du Québec, vous êtes certain, un produit bio certifié par une des 4 agences de certification du Québec, ou lorsque vous voyez aliments bio du Québec, vous êtes certain que c'est vraiment un produit qui respecte les règles de la production biologique. Ça, c'est important pour les producteurs. Ce qu'on demande, nous, au gouvernement, puis ça pourrait faire partie de la politique, la future politique, c'est que les producteurs soient remboursés d'une partie de ces frais de certification-là. Ça pourrait être 50 %, ça pourrait être peut-être 100 % pour les 3 premières années. Par exemple, si pour les 3 premières années de ma certification, j'étais remboursé à 100 % des coûts de cette certification-là, bien là, ça me permet de me développer, d'accéder au marché, d'aller chercher la prime du marché avant d'assumer 100 % des coûts de certification. Ça, ce serait des choses qui seraient intéressantes pour les producteurs et pour l'industrie, puis surtout pour les petits producteurs, parce que souvent, quelqu'un qui fait une production à petit volume, la certification coûte cher par rapport au volume qu'il met en marché, contrairement à un producteur qui a des plus gros volumes à mettre en marché. Alors peut-être qu'on pourrait aussi avoir une approche à ce niveau-là, mais il y a une belle sensibilité au MAPAC quand même par rapport au marché biologique.
Et de toute façon, les contrôles, ils sont essentiels. Là. Ça coûte cher. Il faut trouver une façon d'améliorer cette question-là de répartition des coûts. Mais il faut des contrôles.
Oui, puis il faut des contrôles absolument. Puis l'autre chose qui va, je vois venir dans les prochaines années, c'est qu'il y a quand même une plus grande concurrence là, sur le marché biologique. Il y a plus d'offres. On le voit, là, il y a plus de producteurs qui offrent des paniers biologiques. Dans les marchés publics, il y a beaucoup plus de produits biologiques. On voit les prix se stabilisent, même baisse un peu. Alors, c'est plus l'offre va augmenter, plus les prix vont se rapprocher du marché conventionnel. Alors, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines années également. Donc ça, c'est un défi pour les producteurs biologiques parce qu'eux doivent faire face peut-être à des coûts de production qui ne baissent pas par rapport à des prix sur les marchés qui ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années. Là. Alors, ce sera un défi pour eux aussi. Là. Et de là, si on veut maintenir l'intérêt de la production biologique pour ces producteurs-là. Mais là, il y a peut-être des interventions que l'État devra faire pour assurer la présence de ces produits-là.
Bien, M. Marcel Groslot, merci beaucoup pour ce tour d'horizon et puis bonne fin d'été.
Bien, merci beaucoup, M. Levac, puis c'est toujours un plaisir.
Ici Lionel Levac. Le président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot, est d'accord pour que soient énoncées des politiques qui vont donner des garanties aux consommateurs sur la qualité, la diversité, la disponibilité des aliments, sur le contexte environnemental de production et sur la protection des ressources. Mais pas question pour les agriculteurs d'accepter en parallèle quoi que ce soit qui viendrait affaiblir le soutien et la sécurité des exploitants. L'UPA, au cours des prochaines semaines, va préparer des revendications claires et chiffrées qu'elle espère voir incluses, tout particulièrement dans la future politique bioalimentaire du Québec. Au revoir.